découvrir et comprendre la doctrine sociale de l'Église avec Mgr Marc Hayé.
Voilà, dans le prolongement des précédentes catéchèses sur la doctrine sociale de l'Église et plus exactement ces dernières catéchèses sur la mission des laïcs dans la cité, qui nous ont permis d'aborder des notions aussi fondamentales que la dignité de la personne humaine, les droits de l'homme, le principe de subsidiarité, la doctrine des corps intermédiaires ou encore la notion de bien commun, je me propose aujourd'hui d'entamer une réflexion sur le concept de démocratie, à la lumière évidemment de la doctrine sociale et politique de l'Église. La philosophie du droit et l'histoire des idées politiques distinguent, dans l'histoire de l'humanité depuis l'Antiquité, comme on le sait, trois types de régimes politiques distincts. D'abord, il y a la monarchie, lorsque le pouvoir est entre les mains d'un seul homme. Puis il y a l'aristocratie, lorsque le pouvoir est entre les mains d'une petite élite, c'est-à-dire d'un petit nombre de personnes. Enfin, il y a la démocratie, qui désigne le pouvoir du peuple par le peuple. Il va cependant de soi qu'un système politique donné n'est jamais purement monarchique, ni purement aristocratique, ni purement démocratique, mais relève le plus souvent d'une combinaison plus ou moins harmonieuse de ces trois formes historiques de gouvernement. Étymologiquement, le mot démocratie, du grec démos qui signifie peuple, et kratos qui signifie pouvoir, désigne donc le régime politique au sein duquel le pouvoir appartient au peuple. Voyez. Encore faut-il préciser qu'il n'existe pratiquement aucune démocratie directe au monde. Les États démocratiques étant en général des démocraties représentatives au sein desquelles les citoyens délèguent leur pouvoir aux représentants qu'ils ont élus. C'est en effet le régime que nous connaissons nous aussi. Ce n'est pas le peuple qui gouverne en lui-même, mais il désigne, depuis un certain temps par le suffrage universel, un représentant, des représentants pour mener à bien la recherche du bien commun. C'est ce qui faisait dire d'ailleurs à Jean-Jacques Rousseau, je cite, qu'il n'a jamais existé de véritable démocratie et qu'il n'en existera jamais parce qu'il est contre l'ordre naturel que le plus grand nombre gouverne et que le plus petit soit gouverné. C'est dans le contrat social. Quoi qu'il en soit, la démocratie, selon la définition classique que nous venons brièvement d'en donner, est le système politique au sein duquel les gouvernants sont désignés, en principe pour un temps limité, mais on sait que dans certains endroits, on modifie la Constitution pour que ce soit finalement illimité. Donc, les gouvernants sont désignés en principe pour un temps limité par l'ensemble des citoyens ou des électeurs. D'une certaine manière, la démocratie n'est donc qu'un régime politique ou un mode de désignation des gouvernants parmi d'autres. Là aussi, on pourrait réfléchir sur cette représentativité de ces gouvernants. Lorsque, par exemple, dans des élections, finalement, on se rend compte que le gouvernant qui est victorieux au deuxième tour a pu n'être plébiscité que par 20% de la population. Alors après, c'est sûr que par le jeu des élections à la majorité absolue, il va remporter effectivement au deuxième tour les suffrages, mais souvent par défaut. Donc on peut aussi se poser des questions sur la légitimité, en tout cas, de ce système de représentativité qui peut entacher un peu la démocratie. Or, l'Église considère traditionnellement qu'elle n'a pas à prendre parti en ce qui concerne la forme du gouvernement, le régime politique ou les institutions d'un État, dès lors que celui-ci est au service du bien commun, qui est, comme nous l'avons déjà suffisamment dit, la fin dernière de la société des hommes et qui est donc l'objet même de la politique. évidemment dans le respect de la loi morale, naturelle, et des droits fondamentaux des personnes qui vivent en société. Du moment que ce soit la monarchie, l'aristocratie ou la démocratie, avec les nuances évidemment qu'il faudra lui apporter, à chacun de ces régimes d'ailleurs, du moment qu'il recherche le bien commun, qu'ils garantissent les libertés fondamentales, qu'ils essaient de respecter la loi morale naturelle sur laquelle doit se calquer la loi civile, l'Église n'a pas à intervenir pour privilégier un mode de gouvernement ou une institution humaine, quelle qu'elle soit. C'est ce que rappelle le Concile Vatican II, en particulier la constitution pastorale Gaudium et Spes, sur l'Église dans le monde de ce temps. Je cite le numéro 74, paragraphe 3. « La détermination des régimes politiques, comme la détermination de leurs dirigeants, doivent être laissées à la libre volonté des citoyens. » L'Église n'a pas à intervenir pour dire « votez plutôt pour celui-ci que pour celui-là ». Elle va rappeler les grands principes qui régissent la politique, comme nous l'avons déjà assez dit. Après, aux citoyens, et aux catholiques qui sont des citoyens, à discerner ce qui convient le mieux en fonction des programmes qui sont présentés par tel ou tel candidat. C'est en substance ce qu'enseignait déjà le pape Léon XIII dès la fin du XIXe siècle. On sait que c'est le pape qui a écrit la première encyclique sociale en 1891, donc Rerum Novarum. Eh bien, dans une autre encyclique qui s'appelle Diuturnum Illud, sur l'origine du pouvoir civil, encyclique qui date de 1881, on peut lire que « rien n'empêche que l'Église n'approuve le gouvernement d'un seul ou celui de plusieurs, pourvu que ce gouvernement soit juste et ordonné au bien commun ». Voyez, l'Église pourra faire entendre sa voix lorsqu'elle considérera que telle ou telle décision n'est pas juste, n'est pas ordonnée au bien commun, est contraire à la loi morale naturelle, ne préserve pas les droits fondamentaux de la personne humaine, etc. C'est également ce que saint Jean XXIII soulignera quelques décennies plus tard dans l'encyclique Pacem in Terris sur la paix entre toutes les nations du 11 avril 1963, en précisant, je cite, « qu'il est impossible de définir une fois pour toutes quelle est la structure la meilleure pour l'organisation des pouvoirs publics et selon quelle formule s'exerceront le mieux les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. En effet, pour déterminer la forme du gouvernement et les modalités de son fonctionnement, la situation particulière et les circonstances historiques de chaque peuple sont d'un très grand poids. Or, elles varient selon les temps et selon les lieux. » Fin de citation.